10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
Après plus d'un mois de grève contre la réforme des retraites, les transports reprennent une activité normale pour le plus grand soulagement de milliers de Français qui sont allés travailler, eux, par tous les moyens durant cette période. La lutte continue, les syndicats prononcent la phrase rituelle des fins de conflit, à la fois pour rassurer leurs adhérents et garder la face. Pas de révolution, mais une révolte qui gronde toujours à travers un pays inquiet et méfiant. Christian Jacob, c'est votre première longue intervention depuis votre élection à la tête de LR par les 58 000 militants oui. de votre parti, 58 000 militants de votre parti, qui aujourd'hui d'ailleurs ne rempliraient pas le Stade de France. Vous nous direz comment vous comptez à nouveau attirer les adhérents vers un parti classique. Fidèle de Jacques Chirac, depuis que vous êtes passé du syndicalisme agricole à la politique, vous voulez porter aujourd'hui les valeurs, on dirait, d'un néo-chiracisme. Vous avez toujours répété à ce titre les deux principes de ce que vous appelez le règlement intérieur du gaullisme. Article 1, le chef dirige. Article 2, en cas de problème, se référer à l'article 1. Mais en réalité, vous êtes quand même un adepte du travail collectif. Et votre ambition pour 2022 est de préparer le terrain pour une personne qui pourra effacer le souvenir de l'humiliation de 2017. Pour vous interroger, avec moi, Cécile Cornudet des Échos et Damien Fleurot de CNews. Mais avant cela, on va écouter et regarder le président de la République. C'était après l'intrusion de la CFDT.
Toute forme de violence, j'ai eu l'occasion de le dire, à l'égard d'élus, les violences à l'égard de syndicalistes, quelles que soient d'ailleurs les confédérations syndicales, sont une honte pour notre démocratie et inacceptables.
Des intrusions, Christian Jacob, à la CFDT, au Théâtre des Bouffes du Nord où était Emmanuel Macron. Comment vous qualifiez ce climat social? Est-ce qu'il vous inquiète? Est-ce qu'il se radicalise?
Oui, climat social est inquiétant. Le pays est en tension comme il l'a rarement été. Personne ne peut cautionner des actes de violence, des intrusions par la force. Vous savez, en France, toutes les revendications, à partir du moment où elles n'atteignent pas les fondamentaux de notre République, peuvent être légitimes, peuvent s'exprimer, doivent s'exprimer, mais ne peuvent pas le faire par la violence.
En même temps, le trafic revient à la RATP, on l'a dit. C'est pas ça que vous choisissez de retenir, que finalement on touche à la fin de ce mouvement social contre les retraites?
Oh bah écoutez, c'est une bonne nouvelle que les grèves arrêtent, que les franciliens puissent circuler et l'ensemble des Français. Mais ça n'efface pas effectivement la forte tension que l'on ressent partout. Et de ce point de vue, moi, si je partage l'avis du président de la République pour sanctionner les actes violents, on voit bien qu'il y a un exercice du pouvoir qui est anxiogène.
Mais alors justement, oui, Christian Jacob, on a vu, le ministre de la Culture a dit qu'il était contraint, obligé d'annuler sa cérémonie de vœux qui devait se tenir ce lundi à la Bibliothèque nationale de France à Paris parce qu'il y a des annonces de perturbations, de manifestations. Est-ce qu'on est face à un gouvernement empêché?
Je ne sais pas si on est face à un gouvernement empêché. Ceci étant, le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente. Et il y a une certaine forme d'arrogance, de mépris de l'exercice du pouvoir. On l'a senti à différents moments. Au tout début du quinquennat, lorsque le président de la République, vous souvenez, Notre-Dame-des-Landes, il annonce pendant toute sa campagne qu'il prendra en compte l'expression populaire, les décisions prises par les collectivités territoriales. Alors, première décision qui est prise, ça a été de tout céder et tout lâcher.
Donc,
aux voyous et aux casseurs.
Cautionner la violence, en quelque sorte.
Ça a été aussi, après, le mépris s'est exercé à d'autres niveaux. Premier texte, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué pour un président de la République, le premier texte qui est présenté à l'Assemblée nationale. C'est lourd de signification. Le premier texte de Nicolas Sarkozy, c'était la loi TEPA qui a permis la défiscalisation et l'exonération de charges sociales pour les heures supplémentaires, avec le bouclier fiscal. Le premier texte présenté par François Hollande a été de détricoter cette mesure, mais par conviction politique. Bon, on est à l'opposé de ses convictions, mais il l'a détricoté. Le premier texte d'Emmanuel Macron, mettre les élus, désigner les élus à la vindicte populaire. Ça a été ça.
Sur la transparence.
On est dans un acte 2, là, on parle avec la CFDT.
Non,
les,
oui,
les...
mais je continue, vous savez, tout cela est révélateur. Lorsqu'il s'en prend aux élus de la nation, souvenez-vous de M. Darmanin avec ce balance ton maire. Là aussi, c'est du mépris. Lorsqu'à l'Assemblée, sur un débat comme celui...
Et ça reste malgré l'acte 2, vous voulez dire.
Un débat comme celui des retraites, là, c'est aujourd'hui, on le vit. Aujourd'hui, pour la première fois, le Parlement, sur le budget des retraites, c'est 300 milliards d'euros. C'est 15% du produit intérieur brut de la nation. On va avoir le débat sans parler du budget, c'est-à-dire qu'on court-circuite l'Assemblée nationale.
Se fait en parallèle, la discussion avec la CFDT.
Non, ça ne se fait pas du tout en parallèle, puisque le débat va être, le texte va être présenté deuxième quinzaine de février, et la conférence des finances, bon, je ne sais pas ce qu'elle donnera, elle est pour le mois d'avril.
Donc, les mesures vont être réintégrées au cours de la discussion parlementaire.
Les parlementaires, les députés, vont débattre d'une soi-disant réforme sans avoir d'évaluation budgétaire, sans parler du financement, et on leur dit c'est pas grave, on fera des ordonnances après,
Jacob,
et ce sera voté ensuite.
Pour comprendre, d'abord, on a compris que vous dites que le pays reste en colère malgré la fin des grèves et peut-être des négociations avec les partenaires sociaux qui vont avancer. Mais pour comprendre, qu'est-ce que va faire LR à l'Assemblée nationale pendant le débat sur la réforme des retraites? Cette réforme, vous la votez ou pas?
Ah ben attendez, on ne sait pas à prendre ou à laisser. Il y a un débat à l'Assemblée nationale.
Enfin,
ça existe, la représentation nationale.
Les fameux régimes spéciaux que la droite combat depuis des années ont disparu.
Vous avez vu où qu'ils avaient disparu.
Ils sont
on attend d'avoir un texte. Nous avons été, depuis le début, force de proposition. Et les réformes des retraites, elles ont été menées à chaque fois par la droite, avec des réformes tout à fait importantes. Donc notre position, elle est très claire, nous allons être force de proposition dans ce débat.
Moi, je crois au débat à l'Assemblée.
Mais quel texte vous parlez de quel texte
vous continuez au fond l'opposition qui a mené les syndicats jusqu'à présent, ou au fond, vous faites en sorte qu'une réforme passe?
Nous, on souhaite qu'une réforme passe. Et nous sommes les seuls à avoir mis une proposition très claire sur la table, qui est l'allongement. Je veux juste la présenter en quelques instants. L'allongement de la durée de cotisation. Sur l'équilibre budgétaire des retraites, c'est simple. C'est une équation à trois entrées. Soit vous baissez les pensions des retraités. C'est ce qu'a fait M. Macron avec l'augmentation de la CSG. Soit vous augmentez les cotisations de ceux qui travaillent. C'est ce qu'avait fait le gouvernement de François Hollande. Nous sommes pour une autre voie qui est celle de l'allongement de la durée de cotisation. C'est pour ça que nous sommes pour une mesure claire qui soit le report de l'âge légal. Ensuite, nous sommes favorables à la suppression, l'étalement dans le temps sur une douzaine d'années de la sortie des régimes spéciaux. Ensuite, troisième pilier, la prise en compte d'une approche sociale, c'est-à-dire la prise en compte de la pénibilité, la possibilité de réduire l'âge légal de départ à la retraite pour ceux qui ont des travaux difficiles et pénibles.
D'un mot encore,
si vous me le permettez, sur la pénibilité. C'est-à-dire, il y a des métiers qui sont pénibles aujourd'hui. Ça n'est pas lié à un statut, c'est lié à l'exercice d'une profession. Et donc, notre idée est simple, c'est de dire, eh bien, par année d'exercice de travail difficile, lorsque vous avez fait 5 ans de métier pénible, vous gagnez une année de bonus, limité à 4 ans, ce qui
Christian
pourrait permettre,
Jacob, pour
si on était sur un âge de départ légal à la retraite à 64 ans, de pouvoir partir à 60 ans pour les métiers.
Pour continuer à
c'est
comprendre.
Difficile
c'est
quand même de voir la
vraie... Oh, c'est simple à comprendre.
Mais oui, mais c'est difficile de voir la vraie différence avec ce qui est en train de se construire, parce que dans l'accord qu'il y a eu avec la CFDT, la CFDT reconnaît désormais qu'il faut un âge, qu'il faut une mesure d'âge, qu'il faut un équilibre budgétaire dans ce texte. Donc ça, c'est quand même une avancée d'avoir réussi à obtenir ça de la CFDT.
Oui, mais c'est l'Assemblée nationale qui décide. C'est-à-dire, on ne traite pas par le
mépris. Oui,
in fine,
c'est la CFDT, c'est l'Assemblée nationale qui va voter.
Merci de la précision. À partir du moment où des mesures, on arrive à un report de l'âge légal, ce que nous souhaitons, on n'a pas d'état d'âme pour voter
donc
le texte.
Donc ça, vous seriez d'accord pour voter
mais
ça.
Mais si on reporte l'âge légal, effectivement...
D'avoir une mesure d'impact, par exemple, avant de voter...
De savoir quelles sont les conséquences budgétaires, c'est normal. Et que cette conférence financière, qui sera après le texte, ne se traduise pas par une baisse des pensions supplémentaires ou par une augmentation
des cotisations. Mais ça, il y a une garantie du gouvernement que ce ne sera pas le cas.
Garantie de quoi ?
dans les mots, en tout cas.
Oui, mais la garantie, c'est un texte voté.
Est-ce que vous faites
confiance ? D'où la nécessité de voter en même temps, de travailler sur le budget et sur les mesures. Donc nous sommes sur les trois registres, à la fois le report de l'âge légal, la sortie des régimes
spéciaux. Il n'aurait pas fallu s'entendre avec la CFDT pour essayer de construire quelque chose autour de l'équilibre. Vous pensez que c'est une erreur qu'a fait le gouvernement d'essayer de construire quelque chose avec la CFDT ?
Est-ce que vous faites confiance aux partenaires sociaux qui vont négocier pour trouver la mesure d'équilibre ?
Mais pour le moment de négociation, il n'y en a pas eu. La réalité, on part d'un mensonge qui est aussi celui de l'élection présidentielle. Encore une fois, lorsque le président de la République dit pendant la campagne des présidentielles « il n'y aura pas de mesure d'âge »,
Les prévisions du corps, vous le savez bien, n'étaient pas les mêmes à ce moment-là que désormais.
Si, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avions passé de 60 à 62 ans.
Non,
nous
les prévisions du corps étaient
différentes. Donc le président de la République annonce qu'il n'y aura pas de mesure d'âge. Les gens l'entendent. Et donc après, effectivement, ça crée des tensions quand on leur dit
mais
maintenant on va
voir. Mais ça
date à une
nouvelle situation budgétaire.
C'est pour ça que nous avons toujours...
Et il va dans votre sens. Vous devriez être content.
Mais nous avons toujours assumé une vraie mesure d'âge. Or, l'âge pivot, ça n'est pas une mesure d'âge. C'est une baisse
de
pension.
C'est une incitation.
C'est une baisse de pension. Bon, nous, vous savez, on n'a pas de, n'a jamais eu de difficulté pour voter un texte lorsqu'il il va dans le bon sens et qui correspond à nos attentes.
Donc
attentes
vous
des
serez
Français.
dans une attitude qui consistera aussi
toujours
à faire en sorte que
positive,
cette réforme puisse passer.
Avec des propositions qui
Parce
seront faites.
Parce que une partie de votre électorat, on va en reparler, soutient cette réforme. On en reparle
oui,
dans quelques instants.
Attendons de voir, à condition qu'elle soit faite dans la transparence. Or, aujourd'hui, chaque jour qui passe, on est davantage dans le flou. Rappelez-vous ce qui avait été annoncé, la sortie des régimes spéciaux. Chaque jour qui passe, il y a un régime
on
supplémentaire qui est annoncé.
On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve surtout notre invité Christian Jacob, président donc du parti Les Républicains, en pleine préparation donc pour les municipales, et avec une circulaire du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui vous énerve beaucoup. Alors cette circulaire, on va prendre le temps d'expliquer parce qu'elle est quand même importante. Elle fait relever, donc elle demande au préfet de relever le seuil des maires classés sans étiquette, passant donc de 1000 à 9000 habitants. Lors d'un déplacement d'ailleurs en Seine-et-Marne, on va d'abord l'écouter, la présidente du RN, Marine Le Pen, donc cible Christophe Castaner.
Alors, je l'ai dit, je pense que cette circulaire est une minable manipulation, minable et grossière. L'objectif est évidemment de gonfler artificiellement les scores de son mouvement, et c'est un acte d'opacité.
Christian Jacob, quelles conséquences pour vous ? On n'arrête pas de vous entendre dire que l'élection municipale, c'est d'abord une élection de maires sans étiquette, d'élus, qui forment des rassemblements transpartisans.
Ça, vous n'avez pas dû m'entendre le dire souvent, honnêtement.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette circulaire et pourquoi vous dénoncez un scandale ?
D'abord, c'est de changer les règles d'évaluation des résultats 2 mois avant les élections municipales. De se concentrer uniquement, encore une fois, sur la France des villes. Seule la France des villes présente un intérêt pour le président de la République. En dessous, ça n'a pas d'importance. Et puis surtout, on ne veut pas regarder de trop près. Mais là, c'est quand même un changement de règles qui est, on ne peut plus choquant. En plus de ça, avec un système qui permettra en réalité, dès qu'une commune aura reçu, non pas une investiture, mais le soutien de La République En Marche, elle sera classée immédiatement divers-centre, quelle que soit l'étiquette.
Donc c'est le nuançage politique qu'on appelle qui a été
tout
gommé.
À fait.
Mais c'était pas une demande de l'Association des maires de France, présidée par François Baron, que vous connaissez bien.
Je ne pense pas, je ne l'ai pas du tout entendu comme ça. Sur ce qui est fait aujourd'hui par M. Castaner, ce qui est d'autant plus choquant, c'est vraiment de choisir l'intérêt partisan, c'est-à-dire de son parti politique, de La République En Marche, au détriment de l'intérêt général. Quel problème ça pose d'avoir un nuançage politique, c'est-à-dire d'avoir un éclairage sur les choix politiques de nos concitoyens sur l'ensemble des territoires de France. Mais encore une fois, on se concentre sur les villes, le reste n'a pas d'importance. Et on va même jusqu'à considérer les villes en fonction du fait qu'elles sont chef-lieu d'arrondissement ou pas. C'est-à-dire vous prenez 2 villes identiques de 8500 habitants, l'une est chef-lieu d'arrondissement, l'autre ne l'est pas. Alors l'une sera retenue dans le nuançage politique et l'autre ne le sera pas.
Ce matin, qu'est-ce que vous dénoncez ?
Ben les combines. Les combines et le choix d'un ministre de l'Intérieur qui choisit l'intérêt de son propre parti politique. c'est-à-dire une petite combine politicienne, au détriment de l'intérêt général. Personne ne remettait en cause cette circulaire qui ne posait pas de problème majeur. Alors après, de dire que ce n'est pas 1000, que ce soit 1500 ou 2000, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose.
Qu'est-ce que vous allez faire, Christian Jacob ?
Déposer un recours. D'ailleurs, j'ai vu que déjà un certain nombre d'élus locaux avaient déposé des recours et nous, nous allons le déposer
pour
également
dire quoi,
un recours.
Exactement.
Ben, pour contester plusieurs choses. Tout d'abord, le fait, tel que je viens de l'évoquer à l'instant, qu'on ne va considérer en nuançage politique que les villes et que les zones rurales ne comptent pas et n'ont aucune importance. Ensuite, il y a un vrai problème juridique, puisque vous êtes sur une circulaire qui modifie un décret, ce qui pose quand même, là aussi, pour le moins, un point de droit et d'incompétence de droit.
Il arrive tard, votre recours ? Il arrive tard ? Ça fait presque 2 mois que...
Mais la circulaire n'est pas encore publiée. Normalement, vous savez, comme moi, que pour pouvoir déposer un recours, il faut que la circulaire soit publiée. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs demandé au ministre de l'Intérieur qu'elle soit publique, cette circulaire, pour qu'on puisse déposer le recours. Nous le ferons
Christian Jacob, dès le début de la semaine prochaine. Vous n'avez jamais utilisé les ciseaux pour redécouper des cartes électorales. Il y a même des spécialistes dans votre famille politique, mais aussi à gauche.
Ça n'a strictement rien à voir. Vous faites allusion à quoi ?
Au redécoupage de la carte électorale.
Oui, mais là, on n'est pas sur du redécoupage de carte électorale. Là, on est sur le fait de dire on prendra sur un plan politique en compte le vote de nos concitoyens s'ils habitent en ville. En revanche, en zone rurale, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'intéresse pas le gouvernement.
Parce que La République En Marche a peur de faire un mauvais résultat national.
Oui, je pense que ça a largement guidé le choix du ministre de l'Intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, il fait ce choix qui est quand même assez surréaliste pour un ministre de l'Intérieur à deux mois des élections municipales.
Alors, vous plaidez quand même pour la cohérence politique, mais ce n'est pas toujours facile à suivre du côté de LR, parce que des maires républicains seront soutenus par La République En Marche. Et là, ça ne vous pose aucun problème, ou même avoir d'ailleurs des marcheurs sur leur liste. Alors, vous allez les laisser faire ?
Vous savez combien de maires les Républicains vont être soutenus par La République En Marche ?
Dites-nous.
6 sur les villes de plus de 30 000, sur 300 communes. Et c'est la théorie du porte-bagages que j'ai dénoncée. C'est-à-dire, quand La République En Marche, ce qui est bien souvent le cas, est dans l'incapacité de présenter des listes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'ancrage territorial, parce qu'ils n'ont pas d'élus qui soient suffisamment représentatifs, ils se précipitent pour dire « Coucou, on est là et on soutient ». Et ils le font pour nous, mais ils le font aussi pour d'autres familles politiques, parce qu'en réalité, ils n'ont pas cet ancrage. Ils n'ont pas ce lien avec le territoire.
Daniel Floreau.
Et dans le cadre d'autres alliances, c'est-à-dire des élus de votre famille politique qui viendraient chercher le soutien du Rassemblement national, quelle est votre attitude ? Est-ce que vous laissez une liberté à ces élus ?
Elle a toujours été sans ambiguïté. Tous les dirigeants de ma famille politique qui m'ont précédé, qu'ils se soient appelés Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, il y a une étanchéité totale avec le Front National.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire exclusion de ceux qui soutiendraient ou qui prendraient sur leur liste ?
Pour le moment, ça concerne un cadre du mouvement.
Dans la ville de Sète.
Voilà.
C'est celui de Lunel. Et Sète, qu'est-ce que vous... Il y a également un exemple de Sète qu'on quittait.
C'est la ville de Sète.
Un exemple de Sète qu'on citait la semaine dernière Gérard Larcher.
Mais vous faisiez référence aux 58 000 militants. Voilà,
mais sur le plan du principe, justement, vous dites, à chaque fois que l'on ira, parce qu'il y aura cette tentation sûrement, pour pouvoir rassembler dans une
disons,
ville...
Disons, pour le moment, ce n'est pas probant, parce qu'il y a deux communes. Sur 35 000 communes, donc ça ne veut pas dire que ce soit très probant.
On continue sur les municipales, Cécile Cornudet.
Oui, il y a un dernier sondage à Paris qui laisse profiler un match Hidalgo-Dati. Comment vous l'analysez ? C'est le retour du clivage gauche-droite à Paris ?
C'est d'abord une très belle campagne de Rachida Dati. On voit bien qu'aujourd'hui, la seule possibilité pour les Parisiens de créer une vraie alternance à Anne Hidalgo, c'est Rachida Dati. C'est elle qui incarne l'alternance, avec une progression de campagne très forte. Je vous rappelle qu'au mois de septembre-octobre, elle était créditée de 14% en quatrième position.
Et le score de Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014, c'était plus de 30%.
Ouais. Et aujourd'hui, et le score d'Anne Hidalgo était aussi de 34, il est de 24. Donc si vous voulez qu'on rentre dans les chiffres, on peut y entrer.
Donc vous dites
je vais au bout.
Elle a une dynamique.
Pourquoi il y a cette dynamique autour de Rachida Dati ? Il y a bien entendu sa personnalité, son tempérament que les Français connaissent bien. Mais c'est surtout parce qu'elle a un vrai projet d'alternance. Et il y a un vrai projet pour les Parisiens sur les sujets de la sécurité, de la propreté, des transports, de la mobilité, du logement, il y a un projet qui est présenté. Et moi, j'appelle tous les Parisiens qui en ont assez, effectivement, de la manière dont la ville est gérée par les socialistes et par Anne Hidalgo, de se rassembler autour de Rachida
Dati. Tous les Parisiens, y compris les électeurs de Benjamin Griveaux.
Surtout, ceux qui sont...
Mais tous les Parisiens, on s'adresse à tous les Parisiens. Bah, les électeurs de Griveaux, ils sont de moins en moins nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'à chaque sondage qui passe, ils dégringolent. C'est la spirale infernale. Dans ce qui était le temple de la Macronie. On voit qu'à Paris, effectivement, le macronisme est en train de partir en fumée.
Christian Jacob, vous le racontez finalement, c'est normal, un peu la belle histoire. Mais il y a aussi de la stratégie et des problèmes liés à chaque arrondissement. Est-ce que vous allez imposer des candidats, les Républicains, dans des arrondissements où déjà se trouvent des élus de droite, comme par exemple dans le 15e avec Philippe Goujon, qui lui veut être soutenu aussi par La République En Marche ? Comment vous allez faire ?
Ben, nous, les choses sont très claires. Rachida Dati est celle qui aujourd'hui incarne ce projet pour Paris et l'alternance possible à la gauche. Il faut que dans tous les arrondissements de Paris, les Parisiens aient la possibilité de voter pour Rachida Dati et pour les Républicains. Parce que le système électoral aujourd'hui à Paris, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, est différent des autres systèmes électoraux. On ne vote pas, il y a le système Paris-Lyon-Marseille.
Il y a chaque arrondissement.
Voilà, il y a une élection dans chaque arrondissement. Et donc, il faut que ces élections se fassent dans la clarté. Ce qui veut dire qu'il faut que dans chacun de nos arrondissements, eh bien, les Parisiens aient l'assurance en votant pour une liste que ce sera des gens qui apporteront leur soutien à Rachida Dati. C'est ce qui est fait dans tous les arrondissements. Il nous reste effectivement un arrondissement à trancher sur le 15e. Moi, je demande de la transparence. Nous avons demandé à toutes nos têtes de liste qui s'engagent clairement auprès des Parisiens. Alors, en disant, voilà, si vous votez pour moi, si je suis conseiller de Paris, voilà pour qui je voterai comme maire.
Puisque vous demandez des engagements, on va vous poser la question aussi concernant une autre ville, donc à Perpignan, où là, Louis Alliot, donc du RN, est en passe peut-être de l'emporter. Est-ce que vous participerez au Front Républicain qui s'organise pour faire barrage à Louis Alliot à Perpignan ?
Mais aujourd'hui, il n'est pas question de faire barrage à Louis Alliot, il est question de faire gagner notre équipe municipale. Parce que c'est eux aujourd'hui, nous sommes sortants, et moi je suis très confiant sur le fait que nous allons gagner à Perpignan. C'est toujours une élection difficile, Perpignan. Ça le sera encore, mais nous gagnerons.
Vous vous y rendrez ?
Oui, je m'y rendrai.
On se retrouve pour la suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et avec Christian Jacob, donc président du parti Les Républicains, la droite va-t-elle sortir de sa retraite forcée avec ce nouveau président ? On l'a dit tout à l'heure, vous avez été élu par 58 000 militants. Une fois de plus, ça ne remplit pas un stade complet. Vous lancez une campagne de recrutement, comment vous allez faire ?
On travaille. Alors, d'abord, sur cette élection, c'est 130 000 militants qui étaient invités. Mais il y avait 58 000 militants à jour de cotisation. Vous avez raison de le rappeler. Sur le reste, vous savez, tout d'abord, on travaille dans le collectif. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce collectif a permis d'apaiser les choses. Il y avait des tensions internes indiscutables. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela est apaisé. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase. C'est celle du travail de fond. Après trois défaites successives, présidentielles, législatives, européennes, un peu d'humilité ne nuit pas. Et il faut reprendre les choses sur le terrain. Beaucoup de proximité, beaucoup de travail de fond. 12 forums qui vont être lancés là, dans les 15 jours qui viennent, qui rassemblent à la fois des parlementaires, des élus territoriaux, des gens de la société civile, de 80 experts qui viennent à la fois de la haute administration, qui viennent du tissu associatif, qui viennent du monde de l'entreprise.
Alors, humilité
qui vont
et clarté également. Cécile Cornudet, pour bien comprendre.
Parce que pour bien travailler le fond, peut-être qu'il faut avoir une ligne claire. Et c'est vrai que sur les retraites, on ne l'a pas forcément comprise. Mais... Vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais on sentait que vous guettiez les reculs du gouvernement pour dire qu'Emmanuel Macron n'était plus réformateur. Ce qui vous positionnait, vous, dans le camp un peu libéral. Ces dernières semaines, vous avez rectifié le tir en parlant de pénibilité. Bon, c'était où exactement la ligne ? C'est quoi la ligne entre un Guillaume Pelletier qui mise sur la hausse du SMIC,
qui est là
effectivement, et Bruno Retailleau qui n'est pas là, qui lui est plus sur la dépense publique. C'est quoi votre ligne, le cap que vous fixez pour que ces travaux de vos conventions soient fructueux ?
C'est le travail. D'abord, ça, c'est une vraie référence de droite. Et sur les retraites, j'y reviens d'un mot. Sur les retraites, nous nous sommes accrochés à la valeur travail. Et on considère que pour équilibrer notre système de retraite, il faut aujourd'hui travailler plus longtemps et non pas augmenter le coût du travail en augmentant les cotisations comme l'a fait la gauche ou baisser les pensions des retraités, c'est-à-dire baisser le pouvoir d'achat.
Mais si donc, hausse du pouvoir d'achat version Pelletier, baisse des dépenses version Retailleau, économiquement, c'est quoi votre ligne?
Les deux sont totalement liés. C'est-à-dire, quand je parle de la valeur travail, c'est de redonner de la compétitivité.
Mais ce sont des propositions antagonistes sur le plan de la politique économique.
Absolument pas. Absolument pas. Attendez, enfin, faites-moi la démonstration.
Vous êtes encore pour la synthèse. Vous faites la synthèse.
Non, y compris pour l'État.
On a besoin, il ne s'agit pas d'augmenter le SMIC, il s'agit d'augmenter les salaires, ce qui est différent. Vous avez une nécessité de la baisse de la dépense publique. Nous sommes les seuls à avoir, à l'occasion du budget, faire des propositions très claires avec Éric Woerth sur la baisse de la dépense publique. Aucun autre parti politique, à commencer par celui au pouvoir, n'était capable de le mettre sur la table. Nous l'avons mis sur la table. Donc il faut baisser la dépense publique pour pouvoir redonner de la compétitivité. Et c'est comme ça qu'on peut alléger les charges des entreprises. Parce que dire aujourd'hui qu'on allège les charges des entreprises si on ne baisse pas la dépense publique, c'est mentir. Comme quand le gouvernement nous explique que l'on baisse ses impôts, mais c'est un mensonge éhonté. La réalité d'ailleurs, l'OCDE vient de classer la France comme la championne du monde des prélèvements obligatoires. Jamais les prélèvements obligatoires n'ont été aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Le taux d'imposition des entreprises est le plus élevé d'Europe.
Vous voyez, Christian Jacob, on vous écoute quand même attentivement. Ce sont toujours les mêmes mots de la droite. Prélèvement obligatoire, fiscalité. Oui. Vous allez pouvoir parler d'autre chose, Damien Fleurot, une
mais
question.
Attendez, peut-être
une
que question. Ça vous, non, mais peut-être que ça vous gêne.
Je, non, ça me gêne je, pas. Je pose la question.
Très bien.
Pas du tout.
Simplement,
nous,
ouais,
rien ne me gêne. Moi.
Non, mais le pas. Bah, si, j'ai l'impression
non,
que ça
pas
vous
du
gêne.
Tout. Moi, je pose
le passé, voilà. Plaide pour nous. Oui. Lorsque nous sommes engagés à baisser les dépenses publiques, nous les avons baissées. Nous avons baissé la dépense publique. Nicolas Sarkozy l'avait fait avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça a été une réalité. Emmanuel Macron s'y était engagé. Vous savez, le résultat, depuis deux ans, les dépenses publiques augmentent de 30% plus qu'elles n'augmentaient sous François Hollande. Et reconnaissant à François Hollande que lui ne s'était
et
pas engagé
public
à baisser la dépense
augmenté,
publique.
Exposé sous Nicolas Sarkozy.
Christian
Jacob,
non,
sur les thèmes nouveaux.
Christian Jacob,
sur les thèmes nouveaux. La droite, vous dites, on arrive, enfin, on s'en occupe.
Christian Jacob, on ne vous entend pas, on ne vous a pas entendu depuis le début de cette émission sur un sujet pourtant capital, l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique.
Bah,
je vous pose
bien,
la question.
Quelle
est la ligne là aussi de votre parti, parce que ces dernières années, elle a beaucoup fluctué?
Non, on est sur une approche qui est autour du développement durable, c'est-à-dire avec une logique d'entreprise qui repose sur un trépied. Le trépied, c'est le suivant. C'est d'abord la rentabilité économique. Une entreprise ne tient pas s'il n'y a pas de rentabilité économique. Le deuxième élément du trépied, c'est un facteur de progrès social. Il faut que ceux qui travaillent bénéficient de cela. D'où la nécessité d'augmenter effectivement les revenus liés au travail par rapport à l'assistance. Et trois, s'assurer du respect de l'environnement, c'est-à-dire non pas avec une écologie punitive, mais avec une écologie qui soit incitative.
Donc vous faites confiance par à exemple, la convention citoyenne qui est organisée par
les citoyens qui ont été choisis, tirés au sort.
Mais elle peut tout à fait apporter une contribution. Simplement, moi je pense qu'il y a un certain nombre de leviers dont on doit se saisir, notamment sur les carburants. L'utilisation des biocarburants dans le secteur agricole, qui a été aujourd'hui oublié. Or, on voit bien qu'on a là à la fois des possibilités en termes de performance, performance énergétique, performance économique et respect de l'environnement. On a aussi des possibilités que nous avions fait au moment de l'élection des élections européennes, pardon, d'avoir une frontière écologique, c'est-à-dire de taxer les produits d'importation qui rentrent avec des coûts carbone très élevés. Ça, ce sont des propositions très concrètes et nous allons les reprendre. De quelle manière nous travaillons sur les six mois qui viennent? 12 forums que l'on met en place, 3 conventions qui vont se tenir. Une première qui va se tenir sur le sujet du handicap. Une deuxième qui va être sur le secteur de l'autorité. L'autorité, c'est aussi un marqueur très fort de la droite. Je vois M. Pechenard qui est là, qui est avec nous, Frédéric Pechenard, qui l'incarne en tant que vice-président de notre famille politique. Et un troisième convention qui va être sur le pouvoir d'achat. Ensuite, nous allons avoir le congrès des idées au mois de juillet. Et après, nous attaquons sur trois autres thèmes, notamment sur celui de, l'environnement qui sera un thème de l'automne.
À propos autorité, Cécile Cornudet.
Oui, Emmanuel Macron et son gouvernement ont changé de ton sur la question des violences policières. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'il y a eu des excès? Comment vous abordez cette question?
Et ça, je pense qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes et qui le diront. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une pression énorme qui est mise sur les forces de police et les forces de sécurité. Et ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce côté anxiogène du pouvoir, où on a cédé aux voyous et aux casseurs au début, fait qu'aujourd'hui, les forces de police sont sollicitées comme elles ne l'ont jamais été. Et donc, on sait que quand il y a cette pression, il peut y avoir des dérapages qui sont condamnables sans ambiguïté lorsqu'il y en a. Simplement, les enquêtes sont en cours, donc attendons d'avoir les résultats
de ces enquêtes. Vous trouvez que les forces de police sont bien défendues par leur ministre ?
Mais les forces de police sont d'abord, elles défendent bien les Français. C'est ça leur mission, et ils le font avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement. Mais mesurer la pression qui est la leur, la manière dont ils sont sollicités, et effectivement, s'il y a des rapages, ça doit être condamné, mais sans la moindre ambiguïté.
Sur les armes, rien à revoir sur l'utilisation des armes ou sur les méthodes, les plaquages au sol, par exemple.
Écoutez, peut-être que vous êtes un expert dans ce domaine, je ne le suis pas. Moi, je fais confiance à ceux qui le sont pour savoir si effectivement ces armes sont les meilleures. J'ai plutôt le sentiment que oui. J'ai le sentiment d'une efficacité. Quand on regarde ce qui se passe en maintien de l'ordre dans d'autres pays, on peut plutôt être fier du maintien de l'ordre en France.
Une manifestation aujourd'hui se tient contre la GPA, organisée notamment par une partie de la droite, celle qu'on avait baptisée à l'époque la droite Trocadéro, à nouveau dans la rue. Le texte est au Sénat. Vous évoluez sur ce sujet, sur ce texte. Est-ce que là aussi, LR mute, change, s'adapte à l'époque ou reste sur des tenants plutôt conservateurs ?
Sur le vote sur la PMA pour toutes, moi je m'y suis opposé, j'ai voté contre et j'assume mon vote contre parce que je pense que de fait on ouvrira à la GPA pour toutes et je considère qu'il y a, des risques importants dans ce domaine. C'est donc pour la raison pour laquelle en conscience je m'y suis opposé et j'y reste opposé. Mais j'étais à l'époque président de notre groupe parlementaire, j'ai essayé laisser la liberté de vote, parce que je considère que sur des sujets comme celui-là, chacun, en fonction de ses convictions intimes et personnelles, doit pouvoir s'exprimer. Et on a veillé à faire en sorte que, quelles que soient les convictions des uns et des autres, chacun dans notre groupe parlementaire puisse s'exprimer.
Vous travaillez donc à un projet nouveau, hein, on l'a bien compris, hein, avec des experts, avec votre collectivité. C'est vrai que vous mettez en place une nouvelle méthode. Ce projet, il sera porté obligatoirement par la personne qui sera désignée pour porter vos couleurs en 2022 ou comme d'habitude, il sera rangé dans le tiroir en disant le candidat ou la candidate a son propre projet ?
Il n'a jamais été rangé dans le tiroir. Il y a toujours eu un travail de fond qui a été utile. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment ce travail collectif. Encore une fois, on doit tirer les enseignements de nos trois défaites successives et donc on ne va pas sortir des mesures.
Donc ce n'était pas collectif avant. Finalement, ce n'était pas collectif.
Je vous dis ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Donc de faire un travail collectif. Je ne crois pas aux mesures qui sortent d'un chapeau. Je pense au travail de fond. C'est la raison pour laquelle 12 forums, un premier congrès des idées en juillet. Il y en aura un deuxième en décembre ou en janvier 2021 et un troisième qui se tiendra en juillet 21. Et puis, au moment de l'élection présidentielle, eh bien,
vous apporterez le projet au candidat en disant « voilà, il n'y a plus qu'à appliquer ».
Non, mais il y aura une belle base et il y aura un beau travail de fond qui aura permis de positionner à la fois notre famille politique, mais plus largement que cela, l'ensemble des Français. Nous ouvrons tous ces forums, encore une fois, à la société civile, à différents acteurs qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement engagés politiquement, mais nous avons besoin de faire ce travail. J'y crois beaucoup et ce sera une belle base et un beau fond pour notre candidat à la présidentielle.
Et tout cela pour qui ? Eh bien, on en parle après la pause.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Christian Jacob. À l'issue du séminaire gouvernemental mercredi, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a détaillé la feuille de route de l'exécutif et a annoncé d'ailleurs un plan contre le radicalisme et la lutte contre le communautarisme. On écoute, on regarde.
Nous travaillons à un plan de lutte contre l'islam radical et contre les communautarismes. D'ici le mois de mars, le président annoncera le plan d'action sur ce sujet prioritaire pour l'unité et la concorde nationale.
Vous craignez de voir passer des villes aux mains des islamistes en mars 2020 ?
Le risque existe toujours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon collègue Bruno Retailleau a déposé une proposition de loi au Sénat et que nous reprendrons dans notre groupe parlementaire à l'Assemblée. J'espère que la majorité nous suivra.
Dans un livre récent, François Pupponi, maire de Sarcelles, justement dénonce cela, décortique un peu le système des communautaristes dans les villes, notamment en région parisienne. Vous êtes conscient alerte ou
oui, je vous dis, c'est la raison. Nous sommes la seule famille politique qui a déposé une proposition de loi
et
sur ce
cela,
sujet.
Qu'est-ce que vous allez faire d'autre ?
Écoutez, à part cela, ça déjà beaucoup, mais au-delà de cela, c'est un sujet que nous avons toujours pris à bras-le-corps, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, du gouverneur, parce que j'entends les annonces du Premier ministre, et moi je suis ravi si ça se passe. Simplement, c'est à peu près tous les 3 mois ou les 4 mois que M. Macron nous annonce un discours et des grandes mesures sur le sujet. Et quand le président de la République dit le voile dans l'espace public, ça n'est pas mon problème, mais c'est d'une irresponsabilité grave, lourde. Si Jacques Chirac s'était comporté de la même façon en 2003, la loi sur l'interdiction du voile à l'école, qui a été prise d'ailleurs à l'initiative de François Baroin, n'aurait pas été votée. Si en 2010, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy n'avaient pas fait voter la loi sur l'interdiction de la burqa, on en serait où ? C'est-à-dire que si Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy s'était comporté comme Emmanuel Macron, on en serait où en disant oui, « ça n'est pas mon problème ». Moi, j'espère que c'est le problème du président de la République.
Aujourd'hui même,
en tout cas, nous sommes dans l'opposition et nous apporterons nos contributions sur ce sujet.
Aujourd'hui même, d'ailleurs, le Conseil français du culte musulman, le CFCM, renouvelle ses instances. Il avait tenté d'être réorganisé également par Nicolas Sarkozy. La présence de ce qu'on appelle l'islam consulaire, des représentants des pays étrangers pour l'islam, est encore très forte. L'islam de France est une chimère, en fait.
Moi, je suis effectivement choqué par cela. Je pense que nos amis musulmans doivent avoir cette capacité à s'organiser et ne pas dépendre de nations étrangères. Mais au-delà de ça, il y a aussi des individus qui aujourd'hui sont fichés, sont signalés au fichier de prévention contre la radicalisation en vue d'actes terroristes. Il y a à peu près 20 000 personnes qui sont fichées. Sur ces 20 000 personnes, il y en a à peu près 4 000 qui sont des étrangers. Qu'est-ce que ces étrangers fichés de cette manière font encore sur le territoire national ? C'est de la responsabilité directe du gouvernement. Moi, le président de la République, tant qu'on est dans les discours, tout va bien. Mais maintenant qu'il passe aux actes,
Vous attendez justement
le
discours.
Ça fait deux ans et demi qu'il nous annonce des grandes mesures, mais qu'il les prenne.
Vous voulez qu'il s'exprime, vous demandez ce qu'il s'exprime publiquement et devant les Français.
Non, c'est pas qu'il s'exprime, ça il s'exprime régulièrement, mais simplement qu'il présente un projet de loi, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des décisions de prise. Aucune décision ne sont prises dans ce domaine, aucune.
Damien Fleureau.
Cette semaine, Christian Jacob, on a eu le droit à deux déclarations de candidature pour 2022, celle de Ségolène Royal et puis celle de Marine Le Pen. Une confirmation, j'imagine que vous n'êtes pas étonné. Et dans votre famille politique, vous vous y mettez aussi ?
Les deux personnes, là, j'ai le sentiment qu'elles avaient un peu peur de l'oubli, non ? C'est pas ça qui les a motivés ?
Marine Le Pen, vous avez l'impression que son parti est
oublié des Français ? Marine Le Pen, je pense qu'elle se dit que c'est plutôt l'heure des élus locaux et qu'elle risque de passer à la trappe. Et donc, elle avait envie de faire un petit coucou, j'existe. Bon, c'est son problème. Vous savez, l'heure n'est pas aujourd'hui à l'élection présidentielle. La préoccupation des Français, ça n'est pas ça aujourd'hui. C'est d'aller mieux. C'est d'avoir un système de retraite qui soit équilibré. C'est d'avoir une revalorisation, une augmentation du pouvoir d'achat, d'avoir davantage de sécurité, d'avoir des mesures concrètes pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est pas dans la préoccupation des Français savoir qui sera candidat à la présidentielle dans 2 ans et demi. Excusez-moi.
En l'occurrence, quand on est élu et à la tête d'un parti comme le vôtre, on n'est pas totalement dans la préoccupation des Français. On est également au cœur de la 5e République.
Non, mais au cœur de la 5e.
Vous occupez également, et que vous ne pouvez pas à la fois toujours dire la 5e République, la 5e République, et ne pas reconnaître que c'est l'élection structurante, la seule, la plus importante. Donc la question, c'est comment vous vous y préparez.
Est-ce que vous m'avez déjà entendu une fois dire le contraire ?
Justement, parlons-en. Comment vous y préparez ?
Le rendez-vous, il est dans 2 ans et demi. On s'y prépare avec un travail de fond. Quand on a 3 défaites électorales successives, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu d'humilité, du travail de fond, et on sera prêt le moment venu. Le moment n'est pas venu aujourd'hui. La préoccupation des Français, et quand on fait de la politique au sens noble des choses, eh bien c'est de travailler aux préoccupations quotidiennes des Français. Or, la préoccupation quotidienne des Français aujourd'hui, ça n'est pas de savoir qui sera candidat dans deux ans et demi à l'élection présidentielle.
La préoccupation quotidienne, c'est quand même faire en sorte que votre parti redevienne un parti
oui,
que l'on écoute.
Mais ça, c'est en gagnant les élections municipales. Attendez, alors, ça se joue aux élections municipales qui auront lieu, elles, dans deux mois. Et là, on est dans le cœur des préoccupations des Français. Comment vont être gérés leur territoire ? Ça les préoccupe et nous travaillons dessus. La présidentielle, c'est après.
Christian Jacob, à ce micro, même la semaine dernière, Gérard Larcher, président du Sénat, disait il faut désigner notre candidat par une primaire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Je ne suis pas favorable à la primaire, je l'ai dit et redit, et je souhaite que nous trouvions
pourquoi
la bonne solution en travaillant là aussi ensemble dans le cadre du collectif.
Quels sont les autres modes de désignation possibles ?
On peut en imaginer autant que l'on veut.
Mais moi, le vote des militants ?
D'abord, la tradition dans votre parti a toujours été plutôt de désigner celui qui incarne, qui est le plus fort, qui est au sommet, qui est le premier. Vous allez
la présidentielle, c'est effectivement ça. C'est le rendez-vous entre un candidat et le peuple. C'est ça les fondamentaux de la Ve République. Et moi, je ne suis pas favorable à la primaire pour une raison simple, c'est que la primaire cristallise les oppositions au sein d'une même famille politique. Et donc, on chauffe les uns et les autres. Et après, à deux mois de l'élection présidentielle, on leur dit maintenant, vous allez vous rassembler pour être tous ensemble. Non, je pense qu'on a le temps d'y travailler, mais aussi de le faire encore une fois, dans un esprit collectif, et on trouvera, croyez-moi, sans difficulté, à la fois le moyen de désigner ou le moyen de faire émerger, si ça n'est pas désigné.
Damien Fleurot.
Oui, il y a une figure politique, vous l'avez cité, François Baroin. Est-ce le meilleur aujourd'hui, selon vous, à vos yeux? On connaît votre amitié, votre fidélité.
Oui, bon, au-delà des liens d'amitié depuis très longtemps avec François Baroin, je pense qu'il fait partie évidemment des personnalités qui aujourd'hui ont à la fois l'expérience, la compétence, l'aura, la notoriété et les qualités pour le faire. Mais après, c'est une décision personnelle et on n'est pas dans ce moment de cette décision personnelle. Donc, soyez patient.
Oui, alors on est patient, mais en même temps, on entend des choses qui sont racontées un peu autour de vous.
C'est bien, vous
entendez. Il y a eu une sorte de pacte entre vous deux, au moment où vous réfléchissiez à prendre le parti. J'y vais si tu iras à la présidentielle. C'est ce que racontent en tout cas nos confrères de l'Express. Est-ce que vous demandez
Écoutez
à François Baroin...
Écoutez pas toujours vos confrères.
Mais c'est pour ça qu'on vous pose la question. Est-ce que vous demandez au fond à François Baroin de se décider vite, de manière à ce que si jamais... Et il décide de ne pas concourir pour la présidentielle, que d'autres puissent se préparer.
Il le dira le moment venu. Et je lui fais une totale confiance.
Vous, ça ne vous dérange pas d'attendre comme ça que quelqu'un décide éventuellement?
Je pense que, avant le choix des personnes, travaillons sur le fond, en proximité avec les Français. Et c'est cela le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, si on veut faire passer les personnes avant le reste, on n'y arrive pas. Donc on a besoin d'avoir ce travail qui est légitime, qui est sérieux, et nous le faisons en tout cas dans cet esprit de rassemblement et de sérieux, et naturellement émergera notre candidat le moment venu.
Mais Christian Jacob, quel regard vous portez sur le travail que peuvent effectuer d'autres personnalités qui se sont mises en retrait de votre famille politique, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, pour les citer. Est-ce que vous estimez qu'ils sont encore dans votre famille politique, qu'ils pourraient revenir, notamment au moment de désigner le candidat.
Pour être soutenu par votre parti, peut-être ?
Je trouve d'abord que ce sont deux présidents de région qui font très bien leur travail. Valérie Pécresse, moi je suis francilien et je trouve que c'est une excellente présidente de région. Et je peux vous dire que dans un département comme le mien, et notamment dans la partie rurale de la Seine-et-Marne, eh bien on a vu le changement. Lorsqu'on est passé du socialisme à la majorité actuelle à la région, on peut être fier de notre région.
Donc il n'y a pas de départ définitif et de non-retour?
Mais on n'est pas dans le choix de la présidentielle. Donc aujourd'hui, ce sont deux personnalités qui ont fait le choix de se retirer de notre famille politique. Je le regrette, je n'ai pas toujours compris pourquoi, et notamment sur le choix de Valérie Pécresse. Mais ça a été son choix à un moment donné.
Mais vous évitez de parler de Xavier Bertrand.
Non, je vous ai dit pour les deux personnes. Mm-hmm. Donc, quand vous me parlez de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse, et je vous dis les deux, j'ai le sentiment de parler aussi de Xavier Bertrand.
Pour 2022, on entend beaucoup...
Vous n'êtes pas aussi attentif que vous le dites.
Pour 2022, on entend beaucoup... en cas de match Macron-Le Pen, on n'ira pas voter. On en a assez de cette pression, de ce match imposé, le chaos, moi. Ça vous inquiète ? Ça correspond pour vous à un vrai mouvement au sein de la société ?
Ce match, il est organisé par le président de la République.
Lui, il dit que non.
Il désigne aussi Marine Le Pen comme étant le chaos. Personne, et les Français ont raison de s'inquiéter de cela. On ne peut pas se réduire à la seule alternative d'avoir M. Macron ou Mme Le Pen. Et c'est pour cela, moi, je crois vraiment à la capacité pour la droite de revenir effectivement dans le giron et d'être en situation de pouvoir gouverner dans 2 ans et demi. Et je n'ai pas d'inquiétude là-dessus parce que ce travail, nous sommes en train de le faire et il portera ses fruits.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Christian Jacob. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast à dimanche.
Merci Mickaël Darmon. On vous retrouve en effet dimanche prochain à 10h et également podcast sur Europe1.fr avec tous les grands rendez-vous. Europe 1, c'est News Les Échos. Alors comme on est dimanche, vous le savez maintenant, on va se balader dans quelques minutes avec Frédéric Taddeï, mais pas que. Bonjour Frédéric, vous partez en balade avec qui aujourd'hui ?
Bonjour Justine, c'est avec Eric Orsena que nous partons en balade. Il va nous faire visiter l'Académie française dont il est membre depuis plus de 20 ans.
Ah oui quand même. Alors à tout de suite Frédéric.